Vous écoutez, on lit pour vous.
Contraception forcée, le traumatisme des femmes groenlandaises. Un texte de l'Associated Press, paru le 24 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada. À l'âge de 13 ans, Catherine Petersen s'est vue poser un dispositif contraceptif par des médecins danois sans son consentement. Elle était tombée enceinte et après que des médecins de la ville groenlandaise de Maniitsoq eurent interrompu sa grossesse, ils lui ont posé un dispositif intra-utérin, DIU, communément appelé stérilet. Aujourd'hui âgée de 52 ans et vivant au Danemark, Mme Petersen se souvient qu'on lui a annoncé la pose du dispositif juste avant de quitter l'hôpital. Citation « À cause de mon âge, je ne savais pas quoi faire », dit-elle en pleurant. « Je l'ai gardé en moi et je n'en ai jamais parlé. » Fin de citation. Elle affirme que ce traumatisme a entraîné colère, dépression et excès d'alcool, car elle a longtemps refoulé ses souvenirs et n'en a jamais parlé au médecin. Plus tard, après son mariage, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Excuses officielles. Lors d'une cérémonie prévue mercredi dans la capitale groenlandaise, Nuuk, la première ministre danoise Mette Frederiksen et son homologue groenlandais Jens Frederik Nielsen présenteront leurs excuses officielles pour le rôle de leur gouvernement dans les mauvais traitements infligés aux filles et femmes autochtones du Groenland qui ont reçu une contraception invasive contre leur gré de la part des autorités sanitaires danoises. Ces cas remontent aux années 1960. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons en assumer la responsabilité et créer les conditions d'une réconciliation avec le passé, a déclaré Mme Frederiksen dans un communiqué publié lundi, ajoutant que le gouvernement danois a l'intention de créer un fonds de réconciliation pour indemniser financièrement les victimes. Déshumanisation. La contraception forcée des femmes et filles autochtones s'inscrivait dans une politique danoise plus large, sur plusieurs siècles, de déshumanisation des Groenlandais et de leurs familles. Cette politique comprenait le retrait des jeunes enfants inuits à leurs parents pour les confier à des familles d'accueil danoises afin qu'ils soient rééduqués, ainsi que des tests controversés visant à évaluer les compétences parentales qui ont entraîné la séparation forcée de familles groenlandaises. Une enquête indépendante, publiée début septembre, a révélé que des victimes inuites, dont certaines âgées de 12 ans ou moins, ont subi la pose de stérilet ou ont reçu des injections hormonales contraceptives sans être informées ni avoir donné leur consentement. Certaines ont décrit des expériences traumatisantes qui ont engendré honte et effets secondaires physiques, douleurs, saignements, infections graves. L'enquête portait sur les témoignages de 354 femmes, mais les autorités danoises estiment que plus de 4000 femmes et filles, soit environ la moitié des femmes fertiles au Groenland à l'époque, ont reçu des stérilets entre les années 1960 et le milieu des années 1970. Il n'est pas possible de déterminer combien de ces cas ont été réalisés sans consentement. Citation. Bien sûr, je pense à toutes les femmes qui ont été traitées comme moi, a déclaré Mme Petersen, qui a fait retirer son stérilet plus tôt cette année après plus de 30 ans de silence. Je ressens de l'empathie pour mes sœurs de cette époque. Fin de citation. L'objectif supposé de cette contraception forcée était de limiter la croissance démographique du Groenland en empêchant les grossesses. La population de l'île arctique augmentait rapidement à l'époque en raison de meilleures conditions de vie et de soins de santé. Le Groenland a repris le contrôle de son système de santé en 1992. Douleur et colère persistantes. Christine Bertelsen, 66 ans, aujourd'hui installée à Copenhague, assistera à la cérémonie de mercredi à Nuuk. Elle pense qu'elle avait 14 ans lorsqu'un stérilet lui a été posé au Groenland. Elle se souvient avoir été emmenée à l'hôpital, sans explication, et d'avoir ensuite ressenti une douleur interminable. À 34 ans, elle a donné naissance à un fils, mais pense que deux fausses couches ultérieures sont dues à des complications liées à ce stérilet. Citation. Bien sûr, je suis en colère contre l'État danois pour cet acte, a indiqué Mme Bertelsen en faisant sa valise pour son vol vers le Groenland. Je voulais être présente, alors j'ai pris un billet aller simple pour Nuuk. Fin de citation. Pour la sexagénaire, aujourd'hui retraitée, les excuses officielles arrivent au bon moment. Citation. « Je suis prête pour une réconciliation parce que cela m'aidera », a-t-elle confié. « Ce sera un moment personnel très important pour moi et je suis sûre que cela m'apaisera. » Fin de citation. C'était « Contraception forcée, le traumatisme des femmes groenlandaises », un texte de l'Associated Press paru le 24 septembre 2025 sur le site de Radio-Canada.
Olivia Bakker change des mentalités une formation à la fois. Un texte de R. Pratka paru le 25 juillet 2025 dans le magazine Fugue. Française d'origine, élevée à Marseille dans une famille biculturelle franco-britannique, Olivia Bakker est arrivée à Montréal en 2012 pour étudier. C'est l'amour quasi instantané. Je suis venue en me disant « je vais faire mes études ». Puis on verra ce que ça donne. Puis après un mois ici, j'étais comme « OK, je reste, c'est chez moi ici ». Début 2018, alors qu'elle venait tout juste de terminer sa maîtrise, elle a vu un appel aux candidatures de la Fondation Émergence et a eu un déclic similaire. C'était la place pour elle. Elle a collaboré avec Égal Canada et un cabinet d'auditeurs pour créer un audit détaillé des pratiques en matière d'inclusion des personnes LGBT en milieu de travail au gouvernement fédéral. L'audit faisait suite au recours collectif intenté par des centaines de vétérans des forces armées, de la police et de la fonction publique emporté par la purge LGBT, mis à pied pour leur sexualité ou leur identité de genre, entre 1955 et 1996. Elle a ainsi beaucoup appris sur l'histoire de la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ+ au Canada et a découvert les lacunes qui existent, même dans les milieux de travail apparemment bienveillants. Avec un collègue, Julien Rougerie, elle élargit depuis l'offre des formations offertes aux employés des petites et grandes entreprises, des sociétés de la Couronne et des agences gouvernementales. Les formations sur mesure visent à déboulonner des mythes et à aider les employeurs pour qu'ils puissent offrir un encadrement lorsqu'un employé trans commence à assumer sa nouvelle identité au travail. Dès ses débuts, le programme a été un peu victime de son succès, relate Olivia Bakker. Des entreprises, dont certains des plus grands employeurs du Québec, se bousculaient à la porte. La première année, j'avais fait 20 formations. La deuxième, j'en ai fait 60. La troisième, 80. La quatrième, 100. Ensuite, c'est monté à 137. Depuis, je suis dans ces eaux-là, un peu plus d'une centaine par an. Pour elle, la lutte contre l'homophobie et la transphobie dans la société passe par la formation en milieu de travail. Comment est-ce qu'on rejoint le grand public? En allant là où il est, et beaucoup de gens travaillent, poursuit Olivia Bakker. Généralement, pour les adultes en emploi, presque un tiers de leur journée sera passée au travail. Le travail prend une grosse, grosse partie de notre vie. Certains travailleurs et travailleuses LGBTQ+, qui craignent que leur sortie du placard soit mal reçue ou qui ont des proches LGBTQ+, passent donc 40 heures par semaine, pendant des années, à cacher une partie importante d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. C'est une énorme charge mentale, observe Olivia Bakker. Le seul moyen de rendre le fait d'être LGBTQ+ en milieu de travail correct, c'est d'avoir des milieux de travail plus inclusifs. Comme plusieurs intervenants, intervenantes dans le milieu, elle constate un certain recul de l'ouverture envers les personnes LGBTQ+, et une influence croissante de la désinformation. Des fois, des gens me disent « on n'a plus le droit de s'identifier comme femme ». Ils veulent enlever les mentions de genre et mettre un X pour tout le monde. Quand on leur explique que rajouter une option pour des gens qui s'identifient autrement ne leur enlève rien, les gens comprennent, mais on voit passer tellement d'informations, et est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que tout le monde vérifie tout? Si tu penses qu'on est en train d'apprendre à ton enfant de 3 ans à devenir trans, puis qu'on va lui donner des prescriptions d'hormones, puis de la chirurgie à 5 ans, c'est clair que ça peut créer des inquiétudes, mais c'est juste pas vrai. Je pense que, malheureusement, en ce moment, le doigt est pointé particulièrement vers les personnes trans, poursuit-elle. Il y a toutes sortes de fausses nouvelles qui circulent pour que les gens en aient peur et les prennent comme des ennemis, alors que ce sont simplement des personnes qui veulent des droits comme les autres. Elle tient à inclure des perspectives et des témoignages de personnes trans dans ses formations. Elle reçoit régulièrement des commentaires des participantes, qui disent que les données et les témoignages partagés les ont fait réfléchir. La semaine dernière, après une formation, quelqu'un est venu me dire « C'est vraiment important le travail que vous faites parce que moi, avant, j'étais homophobe. » J'ai grandi dans un cadre où ce n'était juste pas accepté. J'ai grandi en pensant que d'être LGBT, c'était un problème de santé mentale. C'est ce genre de formation qui aide à déconstruire ça. Au cours des prochaines années, celle qui est maintenant formatrice et spécialiste de contenu à la Fondation Émergence vise à créer des alliés, une formation à la fois, et à rejoindre de nouvelles entreprises. Finalement, les endroits où on ne va pas encore, c'est là où on aurait le plus besoin de nous. C'était « Olivia Bakker change des mentalités, une formation à la fois », un texte de R. Pratka paru le 25 juillet 2025 dans le magazine Fugue.
Une bibliothèque comme une petite librairie. Un texte de Jules Faulkner-Leroux, paru le 12 août 2025 dans La Presse. Je semble avoir développé ce qui pourrait s'apparenter à une relation malsaine avec les livres, une compulsion, voire une dépendance. Car pour l'instant, il ne s'agit pas de les lire, mais de les posséder. Probablement la pire raison pour aimer la littérature, me direz-vous. Bref, ma bibliothèque déborde et mes piles à lire s'érigent en petits stacks ici et là dans ma maison. Derrière ce désir, il y a, comme pour la plupart des histoires d'amour, une attirance physique. L'objet livre me fascine. Je ne peux m'empêcher de le saisir. Mes mains doivent le parcourir et faire défiler ses pages. Je dois aussi le sentir. Mais lorsqu'on a plus de livres qu'on ne saurait en lire, force est de constater que, pour soi, avoir est la réelle motivation et que lire est un accessoire que l'on remettra à plus tard. Mais à quand, au fait? À cette angoisse littéraire et financière aussi, il faut le dire, j'ai pu trouver, au fil du temps, différentes théories déculpabilisantes qui m'aident à justifier l'accroissement perpétuel de ma bibliothèque. La bibliothèque cellier. La première théorie que j'ai trouvée veut qu'une bibliothèque ne soit pas différente d'un cellier. On ne boit pas toutes les bouteilles de vin que l'on achète le même jour. Comme pour certaines bonnes bouteilles, on se garde des livres, et on les ressortira plus tard, lorsqu'on aura envie de rencontrer un nouvel ami ou d'en trouver un. J'ajoute à cette théorie qu'on peut relire un livre autant de fois qu'on en ressent l'envie. Alors, bien souvent, le livre nous en donne encore davantage. C'est qu'entre-temps, nous avons mûri, telle une bonne bouteille,
Et ce livre que l'on pense déjà connaître s'ouvre soudainement sur de nouvelles notes. Enfin, la bouteille de vin doit se racheter chaque fois qu'elle se vide. Grâce à la relecture, la collection de livres est donc plus économique. Oui, l'ivresse a bien meilleur goût. La bibliothèque pharmacie. Une autre théorie, attribuée à Umberto Eco, pousse le raisonnement plus loin. Notre bibliothèque ne serait pas un cellier, mais une pharmacie. Et comme il nous est impossible de savoir de quel mal nous souffrirons, il est plus sage de posséder de façon préventive tous les remèdes. Ainsi, le moment venu, il suffira de se diriger vers notre bibliothèque pharmacie et de sélectionner le livre qui soignera notre état d'esprit. Les mots, M-O-T-S, savent soigner les mots, M-A-U-X. Ça, n'importe quel pharmacien ou psychologue vous le confirmera. De mon côté, je dois concéder que mon rapport au livre n'est ni épicurien ni pharmaceutique. Il s'agit plutôt, comme mentionné précédemment, d'un rapport tout à fait malsain. Il me faut les posséder. Lorsque je les vois, jolis, fraîchement imprimés, et que leur quatrième de couverture est écrite pour moi, il me faut les avoir, tout simplement et sans autre considération. Mais il y a autre chose. C'est que j'aspire, moi aussi, à devenir écrivain. Et, par une superstition tout à fait ésotérique, j'ai secrètement espoir qu'en me procurant ce nouveau livre et en l'insérant tout bonnement dans ma bibliothèque, ses qualités littéraires et le génie de l'auteur s'infuseront aussitôt en moi par un phénomène magique de percolation. Je sais le ridicule de la chose. Inutile de me le rappeler. En plus des nouveaux livres que j'achète dans les librairies, en plus des très nombreux livres que j'achète dans les librairies de livres usagés, j'emprunte aussi des livres à la bibliothèque. C'est que la bibliothèque est parfois mon bureau d'écriture. Lorsque j'y vais, avant d'y poser mon postérieur, je m'arrête souvent devant le présentoir, à l'entrée. Là, on ne retrouve pas les livres de l'heure, ceux dont on nous a déjà vendu les mérites. On retrouve plutôt les recommandations des bibliothécaires. Un choix aussi riche qu'éclectique. Des livres, à mon avis, potentiellement plus intéressants que les buzz littéraires de l'heure, car avant ce moment, je ne savais pas encore que j'en avais besoin. Ce riche terreau littéraire, dénué de tout intérêt mercantile et qui ne repose sur rien d'autre que l'humeur d'un ou une bibliothécaire, me permet de croire un instant en la découverte d'un trésor qui ne demande qu'à être cueilli. Ma théorie, la bibliothèque-librairie. Pour justifier mes trop nombreux achats, j'ai fini par élaborer ma propre théorie. On doit faire de sa bibliothèque non pas un cellier ni une pharmacie, mais une petite bibliothèque municipale. Ou encore, l'étalage d'une librairie qui mettrait de l'avant non pas les nouveautés du moment, encore moins le palmarès des ventes, mais les coups de cœur des libraires. En somme, on doit posséder suffisamment de livres non lus pour que, bien longtemps après l'excitation, suivant l'apparition du livre, que tout le monde s'arrache un certain 12 août, on puisse le découvrir, seul, chez soi, comme pour la première fois. La rentrée littéraire d'automne, la rentrée littéraire d'hiver, les parutions des livres de plage et le 12 août sont tout autant de wagons remplis à ras-bord. Oui, il est opportun d'acheter son billet à l'avance, mais parfois, il est bon de laisser passer quelques trains avant d'entreprendre ce genre de voyage. Alors, on bénéficie d'un siège de choix sur le bord de la fenêtre et le paysage s'offre entièrement à nous. La vue est dégagée et il n'y a plus toute cette rumeur qui nous sommes d'en profiter. On est alors disposé à découvrir un trésor qui était juste là, devant nous, dans notre bibliothèque-librairie. C'était une bibliothèque comme une petite librairie. Un texte de Jules Faulkner Leroux, paru le 12 août 2025 dans La Presse.
Le ciel, Rolls-Royce. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 30 juin 2025 dans Le Devoir. Mon auto a lâché. Au sujet de ce bazou, soyons honnêtes, la question n'était pas tellement de savoir quand il lâcherait, mais où. Mon tas de tôle japonais avait plus de 350 000 km au compteur. La moyenne des véhicules qui rendent l'âme oscille autour des 250 000 km. Toujours est-il que mon auto m'a lâché aux portes de l'été, me laissant dans un hiver financier. Comment sommes-nous collectivement assez nigauds pour accepter de claquer autant d'argent pour financer, dans une fuite en avant, ces tombeaux de tôle et de plastique magnifiés par la publicité? La quantité de véhicules qui partent à la ferraille ne cesse d'augmenter. Au Canada, ce sont plus de 1,6 million de véhicules qui sont écrabouillés chaque année. Ce serait autour de 30 millions dans le monde, ce qui donne au minimum 45 millions de tonnes de déchets à traiter. Mais oui, une portion est recyclée. Il faut quand même s'en occuper. On dirait des boîtes de conserve avec une date de péremption dessus. Je me suis décidé à trouver une nouvelle auto qui tienne longtemps la route. J'aime les choses qui durent. Mais dans un monde où tout apparaît destiné à être vite périmé, admettez que ce n'est pas facile. Mon auto avait 14 ans. Pourquoi devrait-on admettre comme une fatalité qu'une automobile ne dure qu'une dizaine d'années seulement? D'où mon intention pour la nouvelle de me placer du côté de la durabilité en achetant une Rolls-Royce. Quelque chose capable de faire rouler même les rêves d'immortalité les plus gros. Il semblerait que, depuis la fondation de Rolls-Royce en 1906, ces véhicules sont ceux qui continuent de rouler le plus longtemps. Selon diverses estimations, ce sont plus de 75% des véhicules produits par la marque en un siècle qui roulent encore. J'en ai discuté avec Jacob Benesti, vendeur autorisé de Rolls-Royce à Montréal. Il était un peu pressé. Un client venait récupérer sa Rolls. Il devait s'en occuper. Je n'ai pas osé demander si son client avait acheté la Ghost, 675 000 $ plus taxes, la Cullinan, 718 000 $ plus taxes, ou encore la Spectre, 802 000 $ plus taxes. Il existe trois concessionnaires Rolls au Canada. Celui de Montréal est le plus important, souligne Jacob. Ajoutez quelques options à votre Rolls-Royce et vous vous retrouvez avec une facture qui dépasse le million. Est-ce vrai que les Rolls durent à ce point? C'est un fait. Je travaille pour la marque depuis 10 ans. C'est une information que j'ai entendue souvent. Oui, apparemment, les Rolls-Royce sont les voitures qui roulent le plus longtemps. Je ne sais pas de quelle étude ça vient. En 2025, Rolls-Royce a vendu environ 6 000 voitures neuves dans le monde. Rien qu'au Québec, Jacob Benesti affirme avoir vendu 94 Rolls-Royce neuves en 2024. En proportion, c'est plus qu'ailleurs au Canada. En tout, il y a eu environ 300 Rolls-Royce neuves vendus au Canada en 2024. Les antécédents idéologiques de la Rolls-Royce renvoient à l'aristocratie, comme l'a montré l'historien de l'art Erwin Panofsky. La marque a été nationalisée en 1971 par le gouvernement britannique. En 1987, le gouvernement de Margaret Thatcher décide de vendre l'entreprise d'État à des intérêts privés. Rolls-Royce appartient désormais à la firme allemande BMW. Plus que jamais, la Rolls est présentée comme une extension de soi, une sorte de marqueur social sublimé dans une orgie de chrome et de bois laqué. Le talent d'une armée d'artisans est mobilisé pour créer des intérieurs avec des incrustations sur mesure. Si vous n'aimez pas le vaste choix de couleurs, vous avez la possibilité de créer la vôtre et de la baptiser. À noter que dans le tissu fin qui couvre le dôme du toit se retrouvent désormais plus de 1000 fibres d'ailes qui reproduisent le ciel étoilé. C'est l'option la plus populaire, affirme Jacob Benesti. Ça donne un effet romantique. Il y a même un bouton qui permet de créer un effet étoile filante, dit-il. Des étoiles filantes sur commande, du bout du doigt, n'est-ce pas merveilleux? C'est encore plus facile que de s'envoyer en l'air pour un de ces voyages privés dans l'espace que s'offrent désormais les multimillionnaires. Pourquoi s'en priver? Selon le responsable des ventes de Rolls-Royce à Montréal, ce sont 95% des Rolls qui vendent désormais qui se prévalent de l'option ciel étoilé, un élément qui assure une meilleure valeur de revente, assure Jacob Benesti. À l'usine, au Royaume-Uni, les dômes étoilés peuvent être personnalisés. Quelle était la configuration du ciel au jour de votre naissance, lors de votre mariage? Il peut être recréé en toute simplicité, à la manière des épousailles de Lauren Sanchez et Jeff Bezos à Venise. Une manière de souligner que vous êtes né sous une bonne étoile. La voiture devient ainsi un lieu d'une contemplation ravie de soi, dans le miroir offert par un univers en simili. Chaque détail du véhicule participe, pour son propriétaire, à la construction du sentiment d'appartenir à une élite. Il n'y a pas de prix, bien entendu, pour s'imaginer faire corps avec les étoiles. Le plus beau dans tout cela, c'est que la Rolls-Royce et le monde qu'elle porte roulent encore et encore sur nos routes défoncées. C'était « Le ciel Rolls-Royce », un texte de Jean-François Nadeau paru le 30 juin 2025 dans Le Devoir.